Dans ce mag, aujourd'hui, on vous propose une conférence débat. C'est au programme de ce jeudi 22 septembre au Boui-Boui du Pays. Une conférence autour de la science asservie avec Annie Thébault-Mauny qui est avec nous par les fils du téléphone. Bonjour Annie.
Bonjour Lisa.
Vous êtes sociologue de la santé, mais pas que. Vous êtes directrice de l'unité sur les cancers d'origine professionnelle à l'Université Paris 13.
Je ne suis pas directrice, je suis maintenant chercheur associé, mais j'ai été membre fondateur, on va dire. J'ai été longtemps directrice, mais bon, laissez tomber les titres.
Ah bah non, mais il y a pas quand même plein de trucs à dire. Hein. Responsable scientifique d'un programme de sociologie comparée de la production de reconnaissance en santé au travail. Vous avez refusé la Légion d'honneur d'ailleurs afin de dénoncer l'indifférence qui touche la santé au travail et l'impunité des crimes industriels. Vous avez écrit trois livres dont le dernier, La science asservie, parle de la dichotomie entre le discours politique, la science et ce qui en découle. Comment allez-vous Annie ?
Je vais mieux que le monde qui va mal.
Alors, bah, c'est un peu le sujet du jour. En l'occurrence, à qui profite la science ?
Alors, la science profite d'abord, je dirais, aux pollueurs. Pour être un peu lapidaire, mais malheureusement, actuellement, les firmes multinationales, les industriels, ont en quelque sorte mis la main sur la production scientifique, soit directement par des contrats avec des chercheurs, d'où le titre de mon ouvrage « La science asservie », mais aussi par la production d'études faites par ce que j'appelle des scientifiques mercenaires qui acceptent de produire des résultats qui au mieux conduisent au doute sur la toxicité des produits, au pire sont absolument mensongers. Donc on est dans une situation que je juge très préoccupante parce que tout ce qui permettait une recherche publique sur fonds publics donc indépendante du pouvoir économique, s'est trouvée sans moyens. Et mes jeunes chercheurs se retrouvent dans la situation où soit ils acceptent des contrats avec des opérateurs privés qui bien souvent ne vont pas aller sur les sujets qui fâchent, soit ils tentent parfois désespérément de trouver des moyens financiers pour financer notamment ce que nous faisons sur les cancers d'origine professionnelle, c'est-à-dire que il y a une telle difficulté à dire haut et fort que les cancers, ce n'est pas seulement le tabac et l'alcool, mais c'est aussi beaucoup des facteurs de risque dans le travail et dans l'environnement. Et pour les chercheurs qui prennent cette réalité au sérieux, c'est très très difficile de trouver des moyens de recherche compte tenu de cette situation de la science asservie.
Alors on voit bien là le cadre actuel avec toute cette crise du Covid, mais en tant que sociologue, j'imagine que vous avez étudié cette question sur la durée. Est-ce qu'il y a eu une bascule ? Est-ce que la science est tout d'un coup devenue prétexte à des discours politiques ? Est-ce que la science est devenue contre-vérité ? La science, oui. quand on parle de science en général, on parle de quelque chose de sûr au contraire.
C'est là où je pense qu'on est ramené à un peu plus d'humilité, nous de notre côté, sur ce que pourrait apporter la science. La science, c'est en fait la société, en quelque sorte, qui l'a fait. Elle est l'institution scientifique, les institutions scientifiques sont traversées par les rapports de domination qui existent dans la société et à l'heure actuelle, le pouvoir politique est complètement dominé par l'obsession d'une augmentation de la richesse, mais cette augmentation de la richesse se fait au profit de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre. Et de ce fait, le Covid n'a absolument pas échappé à ce que j'appelle la science asservie. On a une situation par rapport aux maladies infectieuses où des savoirs existaient depuis très très longtemps, puisque c'est par les maladies infectieuses qu'on a commencé à travailler de façon rigoureuse sur comment ça se passe, pourquoi ces maladies, comment elles se répartissent dans la population. Et en fait, ce qu'on a vu se mettre en place avec le Covid, c'est un discours sur, d'une part, une incertitude quand même qui demeure sur l'origine de cette épidémie, mais surtout la remise en cause des moyens qui avaient été reconnus comme nécessaires dans les autres épidémies, c'est-à-dire des centres de santé ou des médecins au plus près de la population, des soins aux personnes, alors que là, ce qui a été privilégié pour ne pas remettre en cause la destruction des services et du système de santé, nous avons été renvoyés à notre responsabilité et avec des impératifs, notamment l'impératif de la vaccination, qui peut être un outil, mais qui se manie avec beaucoup plus de prudence que ce qui a été fait. Et le résultat a été parfaitement contre-productif, parce que, en fait, ça a créé une opposition dans la population entre des personnes qui étaient vaccinées, d'autres qui n'étaient pas vaccinées. Et le pouvoir politique a utilisé ça, je dirais, contre nous, au lieu de faire de cette épidémie un enjeu démocratique où il était possible de relever un certain nombre de défis sur, je dirais, le traitement humain des personnes, des malades et des non-malades.
Alors, dans votre livre « La science a servi », qui sera donc présenté au Bouygues du Pays ce jeudi 22 septembre, vous invitez à résister à l'imposture scientifique et à mettre en synergie en matière de santé publique les savoirs scientifiques et les savoirs citoyens. Comment ?
Eh bien, écoutez, une des pistes parmi celles, je pense, nombreuses qui existent, c'est qu'il y ait des collectifs. Alors là, je vais parler de l'association Henri Pezra, Santé, Travail, Environnement, qui est une association qui s'est constituée en 2009, après le décès d'Henri Pezra, qui était un toxicochimiste et qui revendiquait cette appellation d'expert citoyen, c'est-à-dire à la fois à l'écoute des savoirs et des expériences de ceux et celles qui sont confrontés. Alors, ça a commencé avec l'amiante et puis avec beaucoup d'autres pollutions qu'on connaît, notamment au milieu de travail. Et en même temps, un travail scientifique orienté vers la réponse aux demandes citoyennes sur les questions de risques pour la santé, en commençant par le milieu de travail. Et depuis 2009, notre association fédère des collectifs syndicaux ou associatifs qui, localement, résistent à cette espèce de fatalisme de la pollution, fatalisme des risques du travail et de la dégradation des conditions de travail. Et des luttes sont en cours avec ce qui était des comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail, mais aussi des associations pour obtenir d'abord la mise en application des réglementations. On a obtenu dans le passé l'interdiction de l'amiante. Il y a de très nombreuses luttes pour que l'amiante en place soit gérée de façon responsable. Et je peux témoigner du fait que que ce soit au niveau citoyen ou au niveau syndical, ces luttes peuvent être victorieuses.
Il faut se renseigner, hein. Il faut chercher des informations. Alors vous, en tant que sociologue de la santé, en tant que, qu'électron autour de, des études scientifiques, vous avez un certain poids, des connaissances. Nous, citoyens, entre les industriels, les chercheurs, les études scientifiques, les productions scientifiques qui sont réalisées et qui se contredisent, admettez que ça peut se compliquer.
Ah, c'est vrai que c'est... Enfin, c'est une lutte, et comme toutes les luttes, ça n'est pas facile. Mais je dirais que, au fil du temps, avec Henri Pezra, qui était mon compagnon et avec lequel j'ai beaucoup travaillé, nous avons pris conscience que ces luttes, elles pouvaient obtenir de faire bouger les lignes quand on réunissait quatre acteurs, les premiers concernés, les victimes ou les travailleurs exposés à des substances toxiques ou à des conditions de travail délétères, pour qu'ils comprennent ce à quoi ils sont exposés, une alliance avec des scientifiques, je dirais, libres dans leur tête, indépendants du pouvoir économique, du pouvoir politique, est indispensable. Et ensuite, ça a été une alliance avec des juristes, des avocats, qui ont plaidé avec nous, mais qui ont plaidé avec nous, pas pour nous. Et ensuite, des journalistes d'investigation. Et quand vous mettez toutes ces personnes avec des savoirs et des expériences différentes à se coordonner sur une même lutte, sur un même problème, eh bien, il en reste toujours quelque chose, même quand on n'a pas toujours obtenu, évidemment, ce qu'on souhaitait. Et je pense que ces luttes valent la peine d'être menées.
Plusieurs luttes, vous êtes engagée sur différents fronts. Annie Thébaumoni, vous avez écrit alors l'industrie nucléaire, sous-traitance et servitude. Vous avez écrit « Travailler peut nuire gravement à la santé, sous-traitance des risques, mise en danger d'autrui, atteinte à la dignité, violence physique et morale, cancer professionnel ». Puis « La science asservie », donc là en 2014 aux éditions La Découverte. D'ailleurs, « Travailler peut nuire gravement à la santé » a reçu le prix de la revue Prescrire et de l'association des journalistes et de la presse médicale. Vous êtes soutenu, vous êtes reconnu avec donc ces divers sujets. Alors, amiante, radioactivité, plomb, pesticides pour les victimes rendues invisibles par les collusions mortifères entre industriels et chercheurs. Il y en a des pans à décortiquer et à comparer. Beaucoup de travail dans plein de domaines différents.
Oui, absolument. Et ce qui est quand même important, c'est de justement désenclaver chaque lutte. On a commencé avec l'amiante et on s'est très rapidement rendu compte qu'il fallait non pas travailler sur l'amiante, mais travailler sur ce dont l'amiante était le symbole. Mmh. Et donc c'était la prévention et la réparation des maladies professionnelles en milieu professionnel, mais c'était aussi le fait que, par exemple, si on prend les pesticides, on s'est mis à plusieurs scientifiques pour aider Paul François dans sa démarche victorieuse contre Monsanto, sur la responsabilité de Monsanto dans la très grave intoxication qu'il a subie. Et en faisant ce travail-là, nous nous sommes rendus compte à quel point il fallait justement que les regards se croisent et que chaque lutte permette d'en entraîner d'autres. Actuellement, je travaille beaucoup par rapport à Notre-Dame, mais aussi par rapport dans un tout autre espace sur le problème des cancers d'enfants. On voit de plus en plus des collectifs se créer dans des communes ou des ensembles de communes où il y a un nombre très inquiétant de cancers d'enfants. Une fois de plus, les autorités sanitaires disent que circuler, il n'y a rien à voir, alors que si on regarde attentivement, et là c'est tout ce que nous avons déjà fait qui nous permet d'aller un peu plus loin, nous nous apercevons que par exemple, quand il s'agit du collectif Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique, les enfants ont été exposés, ou leurs parents, à des pesticides, à des champs électromagnétiques, il y a une ligne à haute tension qui passe sous l'école, à des produits toxiques d'une ancienne entreprise de traitement de bois qui a laissé des pesticides désormais interdits et redoutables du point de vue de leur toxicité. Et en fait, bien sûr, il y a énormément de travail. Ce que j'espère, c'est, et ce que je vois, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de citoyens qui s'en saisissent. Et parmi eux, beaucoup de jeunes, et c'est mon espoir, c'est que des jeunes reprennent ce flambeau pour continuer ce travail d'affirmer la nécessité d'une indépendance de la connaissance par rapport au pouvoir économique et par rapport au pouvoir politique actuel.
Alors des sujets tels que l'amiante, la radioactivité, le plomb, les pesticides, ce sont des sujets qu'on connaît déjà comme problématiques, mais s'il s'agit de la question que nous cachetons et à qui profite la science, ça devient un petit peu compliqué de faire la part des choses pour tout un chacun, d'où la nécessité, là encore, de faire appel à des collectifs citoyens et scientifiques. C'est un petit peu le cœur de votre ouvrage, de rassembler tout le monde pour favoriser l'indépendance d'une solution.
Absolument. Je dirais que c'est la voie par laquelle passe la possibilité de remettre en cause un certain nombre de, je vais le dire, un certain nombre de mensonges opportunistes pour éviter d'avoir à prendre des décisions courageuses par rapport à toutes ces questions, que ce soit les pesticides. Il devrait y avoir une interdiction totale des pesticides de synthèse parce que ces produits chimiques ont fait la preuve de leur toxicité et de leur côté extrêmement dangereux, pas seulement pour les agriculteurs, mais pour les riverains et la population qui les consomme, qui consomme les fruits et légumes contaminés. La radioactivité, malheureusement, on a aujourd'hui des preuves flagrantes d'une toxicité sans seuil, contrairement à ce que veulent affirmer ceux qui défendent la légitimité pleine et entière du nucléaire. Et quand on pense à tout ce que respirent des ouvriers dans le bâtiment, dans la construction, sur les routes, dans toutes les entreprises de fabrication de métaux, on ne peut qu'être vraiment convaincu de la nécessité des combats que nous menons.
La science asservie, comment lutter pour rendre les victimes plus visibles, les victimes de l'amiante, de la radioactivité, du plomb, des pesticides, comment joindre ces efforts et comment rendre tous ces problèmes plus clairs pour tout un chacun. Quelques éléments de réponse donc lors d'une conférence débat avec vous, Annie Thébault-Monnier. Ce sera ce jeudi 22 septembre à partir de 17h30 au Boui-Boui du Pays. Vous serez sur la D115 entre Fénérol et Lexos et autour de votre dernier livre donc, La science asservie. Je rappelle que vous êtes entre autres sociologue de la santé, Annie Thébault-Monnier. Merci beaucoup.
Merci à vous.